Zacharie, chapitre 9, au verset 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Jette des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et vainqueur. Humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. On veut aujourd'hui contempler ces paroles et comprendre ce qui est contenu dans ces paroles, dans ce passage de Zacharie. Et au-delà de l'accomplissement qui s'est révélé dans l'entrée de Jésus dans Jérusalem lorsqu'il montait sur un âne, au-delà de cela, nous voulons trouver de manière personnelle comment Dieu parle à nos cœurs à travers cet appel, cette annonce, cette déclaration. Voici, ton roi vient à toi. Réjouis-toi, fille de Sion, jette des cris de joie, fille de Jérusalem, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Et au verset 16, il y a écrit « Et l'Éternel, leur Dieu, les délivrera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple, car ils seront comme les pierres d'un diadème brillant sur sa terre. » Le peuple de Dieu, en ce dernier jour, ces derniers jours, ce jour terrible, sera finalement, au jour où Dieu les délivrera, ce peuple, son troupeau, sera comme les pierres précieuses sur le diadème brillant qui est en sa main. Aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est laisser nos cœurs être touchés et abordés par l'Esprit de Dieu. Dieu s'adresse ici à ceux qui sont les enfants de Dieu, la fille de Sion, fille de Jérusalem, de ceux qui se sont joints à l'Église dont les noms sont inscrits dans les cieux, et il lui dit « Voici ton roi vient à toi ». Et cette prophétie de Zacharie, elle a trouvé son accomplissement lorsque Jésus demanda aux disciples de lui trouver un jeune âne et monté sur l'âne et a fait son entrée triomphale vers et dans Jérusalem. Mais plus que cela, il y a quelque chose pour nous qui est contenu dans ces paroles, dans lesquelles Dieu touche un point sensible dans l'expérience de chaque personne parce qu'il dit que ton roi vient à toi. Un roi est quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui régit et quelqu'un qui a le premier et le dernier mot. Un roi, ce n'est pas quelqu'un qui se propose de régner de manière démocratique, mais c'est quelqu'un qui est souverain. Et nous voulons explorer dans la parole de Dieu les choses que Dieu nous révèle vis-à-vis de ces réalités. Et maintenant, je veux attirer votre attention, frères et sœurs, vers ces choses-ci. Qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide que rien ni personne ne peut combler, un vide que l'homme cherche sans cesse à remplir en vain. Mais l'effort constant d'étouffer le sentiment amer et agonisant de ce vide, ce gouffre, fait souvent oublier la réelle ampleur de ce vide et le réel besoin de le combler par celui-là seul qui y est destiné. Il n'y a qu'un seul objet, qu'une seule personne qui peut combler ce vide, qui est dans le cœur de chaque être humain. Tournons-nous vers le psaume 42, versets 1 à 2, et trouvons-y là l'expression inspirée du psalmiste dans lesquelles nous entendons le cri de l'âme. Mais ce n'est pas simplement cela, c'est l'expression de l'âme qui ressent son vide et son cruel besoin. Quelle est cette expression que l'esprit nous relate à travers l'inspiration pour que nous puissions nous identifier ou comprendre ce à quoi nous sommes réellement appelés? Nous pouvons soit nous identifier à ces choses, soit être réprouvés et y trouver l'instruction sur le comportement du vrai chrétien. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà ce qui est écrit. Comme un cerf brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand entrerai-je et me présenterai-je devant la face de Dieu? Donc, faire profession, se réclamer du nom de Jésus, ce n'est pas suffisant, mais il s'agit d'une véritable attitude, d'un cri agonisant à l'intérieur de l'âme qui dit, comme un cerf altéré, il brame après l'eau, moi aussi, Seigneur, mon âme soupire après toi. Soupirer après Dieu. Il n'y a que de cette manière que l'homme peut remplir le vide qui est dans le cœur de chaque homme. Au fin fond de l'être de chaque homme, il y a ce vide que nous sommes sans cesse en train d'essayer de remplir, de combler, mais que rien ni personne ne peut remplir si ce n'est Jésus-Christ. Donc vous voyez, je n'ai mis aucun suspense. Je n'ai pas essayé de vous mettre en suspense sur la personnalité de la personne qui peut remplir ce vide. On veut tout de suite être mis en face et aux prises avec cette réalité que nous avons besoin de saisir de tout notre cœur l'offrande qui nous est faite en Jésus-Christ. Que Jésus se présente à nous et il nous offre tout son cœur. Il ne nous laisse pas en suspens, mais directement dans notre besoin, il se présente à nous, il se révèle à nous, pas simplement à travers des émotions pures, mais à travers sa parole qu'il cherche sans cesse à nous rappeler, à rappeler à nos esprits, à raviver notre flamme. Il veut raviver cette flamme sans arrêt à travers le rappel de sa parole. Et tout de suite, ça nous montre l'importance, non pas simplement d'étudier de manière intellectuelle la Bible, mais de plonger nos regards affectifs dans ces révélations de Jésus-Christ dans la Bible, dans sa parole, la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean 1 que la parole a été faite chair et a été révélée aux hommes. La grâce et la vérité sur la face de Jésus-Christ. Donc mon âme a soif de Dieu. C'est le cri qui doit être animé ou peut-être ranimé à l'intérieur de nous pour pouvoir obtenir une réelle satisfaction dans ce monde. Il n'y a que lui qui peut satisfaire la demande incessante de satisfaction profonde et réelle et tangible à l'intérieur de nos cœurs, frères et sœurs. Il n'y a que lui. Toutes les autres choses se révéleront insatisfaisantes et décevantes et trompeuses. Donc nous voulons crier dès le début maintenant, Seigneur, comme ce cerf qui brame dans la forêt, cherchant de quoi assouvir sa soif et qui rugit de toute la profondeur de sa nature après les eaux courantes. Moi aussi, Seigneur, mon âme, elle crie après l'eau vivifiante de ta parole et de ton amour vivant pour mon âme de pécheur. Donc l'Esprit, vous voyez, il veut se saisir de nos affections et il veut que nous-mêmes nous saisissions et nous cherchions l'affection que Dieu a pour nous et qu'il a manifestée pour nous en Jésus. De manière réelle, tangible, il ne s'agit pas ici d'une fable, il s'agit de tout ce que Dieu est et qu'il a révélé et qu'il a prouvé dans le sacrifice et le don de la vie même de Jésus à chaque instant et à chaque tournant de sa vie. Et maintenant, frères et sœurs, ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est parce que les terribles scènes qui nous entourent sont si terriblement troublantes et si terriblement frustrantes à tant d'égards que nous voulons maintenant plonger nos regards vers le passé à travers les paroles d'inspiration et voir quelle a été dans l'histoire le développement total quand ce vide dont je viens de parler a été étouffé, étranglé et noyé dans une nation tout entière et que Satan a véritablement pris les rênes des âmes et de la société. Pour cela, on veut observer et considérer les scènes de la Révolution française. Et avant de nous y tourner, on veut considérer les paroles qu'a prononcées l'Ecclésiaste vis-à-vis de l'histoire et la répétition de l'histoire, pour que nous ne lisions pas simplement les événements présents comme des choses inédites, mais que nous considérions attentivement ce qui est écrit ici. Qu'est-ce qu'il dit ? Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 1, au verset 9, à 11. Et l'Ecclésiaste, le roi Salomon avait goûté à tous les plaisirs de la vie et ensuite il avait aussi goûté à l'amertume que produisent à la fin tous ces plaisirs et des choses lui avaient été révélées par son expérience amère, de terrible amertume. L'Esprit s'était révélé à lui à travers tous ses propres échecs et lui avait dit ce qu'il a écrit ici. Je lis. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on puisse dire, vois ceci, c'est nouveau? Elle a déjà été dans les siècles qui furent avant nous. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui a été dans le passé, c'est ce qui sera dans le futur. Ce qui s'est fait dans le passé, ça va se reproduire encore. C'est-à-dire que dans cette histoire du monde dans lequel nous vivons, depuis la chute d'Adam jusqu'à la fin du plan de la rédemption et la destruction de tous les pécheurs de dessus la face de la terre, les choses qui se sont produites trouveront une répétition, un écho dans les choses qui se produiront après elles. Et c'est exactement ce qui nous est indiqué vis-à-vis du sujet de la Révolution française, car comme ce que nous avions lu dans l'étude précédente, les scènes qui ont bouleversé la France au temps de la Révolution française trouveront une répétition et des scènes semblables dans le futur. C'était ce qui avait été révélé à travers les écrits de l'esprit de prophétie d'Ellen G. White. Et maintenant, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir cerner plus distinctement ces choses qui se révèlent dans l'histoire de la Terre aujourd'hui, nous voulons lire dans le livre « La tragédie des siècles » à la page 285, au paragraphe 1. Au XVIe siècle, une Bible ouverte à la main, la Réforme avait frappé à la porte de tous les pays d'Europe. Certaines nations l'avaient accueillie avec joie comme une messagère céleste. Donc les nations avaient accueilli la Bible et les enseignements de la Bible avec joie. Et ils l'avaient accueillie comme une messagère du ciel. Je continue. D'autres, influencés par la papauté, lui avaient en grande partie fermé l'accès de leur territoire, qui resta ainsi presque totalement privé de la connaissance et de l'influence bienfaisante de la parole de Dieu. Parmi ces derniers, il faut ranger la France, où la lumière pénétra de bonne heure et où, des siècles durant, la vérité et l'erreur furent aux prises et où le mal finit par triompher et la lumière céleste par être bannie. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Aussi la nation française tout entière a-t-elle récolté les fruits de ses semailles. La puissance protectrice de l'Esprit de Dieu ayant cessé d'entourer un peuple qui avait méprisé le don de sa grâce, les ferments du mal sont parvenus à maturité et le monde a pu contempler les résultats auxquels on s'expose lorsqu'on ferme volontairement sa porte à la lumière. La guerre faite à la Bible sur le sol de France atteignit son point culminant sous la Révolution. Cet effroyable bouleversement fut la conséquence naturelle de la suppression de la Bible. Il est la démonstration la plus frappante de l'aboutissement auquel peut arriver une nation après plus d'un millénaire passé à l'école de l'Église de Rome. Donc c'était l'histoire, c'est les réformateurs, Dieu s'est présenté aux nations à travers les enseignements des réformateurs qui n'étaient autres que des lumières provenant de la parole de Dieu qui avait été négligée pendant tant de siècles. Et beaucoup de nations ont reçu cette précurseuse de temps nouveau et d'une régénération au sein des peuples. Mais dans la France, à cause de l'influence et de la domination de Rome, cette lumière, bien qu'elle soit rentrée dans la France, elle a finalement été rejetée. Et le mal a fini par triompher et la lumière céleste a été bannie de ce pays. Et ainsi, comme nous lisons, la nation française a fini par récolter ce qu'elle a semé. Et la puissance protectrice de l'Esprit de Dieu a cessé d'entourer un peuple qui avait méprisé ce don de la grâce de Dieu qui avait été révélé à travers les enseignements purs de la Bible et le monde a pu contempler quels étaient les résultats finaux auxquels on s'expose lorsqu'on ferme volontairement la porte de son cœur à la lumière de l'Évangile. Et donc cette guerre qui a été faite à la Bible sur le sol de France a atteint son point culminant sous la Révolution française. Donc vous voyez, il n'y a rien qui est laissé au hasard, ces choses étaient parfaitement liées. Et donc la Révolution française n'est pas simplement une conséquence uniquement liée aux abus du pouvoir du trône, mais c'était une conséquence, une accumulation d'un rejet précédent de la lumière de la pure parole de Dieu. Ensuite, je continue à la page 300, au paragraphe 3. L'Évangile aurait apporté à la France la solution des problèmes politiques et sociaux qui déjouaient l'habileté de son clergé, de son roi et de ses législateurs, et qui finirent par plonger le pays dans l'anarchie et la ruine. Donc on lit ici que réellement l'Évangile aurait apporté la solution que les hommes, les révolutionnaires, ont fini par chercher à travers la violence. Vous voyez, il faut que l'on prenne à cœur ces choses parce que nous avons lu que ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des paroles de l'inspiration. Je continue. Mais, donc l'Évangile aurait apporté ces problèmes que le clergé, le roi, les législateurs ne savaient pas gérer et qui ont fini par plonger le pays dans l'anarchie et la ruine. Mais, sous la domination de Rome, le peuple avait oublié les enseignements bénis du Sauveur conduisant au renoncement de soi et au sacrifice de soi. On avait détourné le peuple de l'amour désintéressé pour les autres. On n'avait pas censuré le riche opprimant le pauvre, ni secouru le pauvre dans sa servitude et sa dégradation. L'égoïsme du riche et du puissant était devenu de plus en plus dur et cruel. Depuis des siècles, une noblesse prodigue et dissolue écrasait le paysan. Le riche pillait le pauvre et le pauvre haïssait le riche. Et maintenant je lis à la page 302, paragraphe 1. En jouant sur la jalousie des rois et des classes dirigeantes, Rome les avait poussés à maintenir le peuple dans un état de servitude, sachant très bien qu'en affaiblissant l'État, elle affermissait d'autant son ascendant sur la nation entière. Donc, si vous considérez attentivement, frères et sœurs, ces choses, c'est important de prendre en compte que Rome s'était efforcée d'affaiblir l'État pour s'assurer un ascendant sur le peuple entier, sur la nation entière. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux simplement qu'on laisse les paroles de l'inspiration parler pour elles-mêmes et que l'on fasse preuve de discernement à la lumière de ces choses. Pour être éclairé par ces choses et pas simplement par notre propre entendement et notre propre analyse. Sa politique, la politique clairvoyante de Rome, lui enseignait que pour asservir les peuples, il faut enchaîner les âmes et leur ôter toute semblance, toute capacité de liberté. Or, la dégradation morale résultant de cette politique était 1000 fois plus lamentable que les souffrances physiques, privées de la Bible, abandonnées à la bigoterie et à l'égoïsme du clergé. Le peuple était plongé dans l'ignorance, la superstition et le vice, et par conséquent, il ne pouvait pas se gouverner. Tel était le plan de Rome, mais le dénouement fut tout autre. Au lieu de retenir les foules dans une aveugle soumission à ses dogmes, elle avait fait des incrédules et des révolutionnaires. Considéré par le peuple comme inféodé aux oppresseurs, le romanisme récolta sa haine. Le seul dieu, la seule religion que l'on connut étant le dieu de Rome, et les enseignements de Rome, on considéra l'avarice et la cruauté de l'Église comme les fruits légitimes de la Bible, et l'on ne voulut plus en entendre parler. Et vous voyez, frères et sœurs, ces choses-là, elles ont récolté leur semaille. Le rejet de la pure Bible, du pur évangile de Dieu, a récolté ses semailles dans cette terrible scène de la Révolution française. Au lieu de retenir les foules dans une aveugle soumission à ses dogmes, Rome avait fait des incrédules et des révolutionnaires. Vous voyez la création Frankenstein faite sous la domination romaine. Et donc, en conséquence, ne connaissant que le Dieu de Rome et les enseignements de Rome, le peuple s'est mis à considérer l'avarice et la cruauté de l'Église comme les fruits légitimes de la Bible. Et ils ne voulurent plus en entendre parler. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui partout. Non pas seulement dans la France, mais dans le monde en général. Bien que la France soit le noyau de cette mentalité qui a été produite et créée par l'activité de l'Église de Rome. Et nous continuons parce que là, c'est quelque chose qui va nous suivre et nous guider dans la suite de notre méditation. Il est écrit « Rome ayant dénaturé le caractère de Dieu et perverti ses exigences, on rejeta et la Bible et son auteur. Au nom des Écritures, la papauté avait exigé une foi aveugle en ses dogmes. Par réaction, Voltaire et ses collaborateurs rejetèrent entièrement la parole divine et semèrent à pleine main le poison de l'incrédulité. Rome avait écrasé le peuple sous son talent de fer et maintenant, dans leur horreur de la tyrannie, les masses, dégradées et brutalisées, rejetaient toute contrainte. Furieux d'avoir trop longtemps rendu hommage à une brillante fiction, le peuple rejeta également la vérité et le mensonge, confondant la liberté avec la licence. Les esclaves du vice exultèrent dans leur liberté imaginaire. C'est du sérieux. Donc, pour se débarrasser à tout jamais des abus criants de l'Église de Rome, les hommes rejetèrent à la fois l'eau du bain et le bébé. Ils rejetèrent également la vérité et le mensonge. Donc, comme ce qu'on vient de voir ici, la politique de Rome créa des incrédules et des révolutionnaires. Et le dieu de Rome étant tout ce qu'il connaissait, il ne voulait plus entendre parler de religion. C'est exactement les choses, frères et sœurs, que je vois aujourd'hui. Toutes ces choses sont dues à l'activité perverse de l'Église de Rome.
Mais nous voulons aller plus loin que ça même, parce qu'il y a davantage à prendre en compte, parce que ce que Rome a fait en dénaturant le caractère de Dieu, elle n'est plus la seule à le faire aujourd'hui. Et c'est un courant contre lequel il nous faut nager avec toute la force qui est dans notre âme, parce que si nous ne réalisons pas quel est réellement le caractère de Dieu, nous allons inévitablement tomber dans les pièges de Rome, et qui ne sont autres que les pièges du diable. Et donc, sous la tutelle de Rome, la domination de Rome, le peuple avait oublié l'amour de Dieu et l'esprit de sacrifice et de renoncement. Ces choses avaient été effacées des pensées et du cœur des peuples. Vous voyez que Satan, il s'était efforcé à travers une religion apostate à enlever ce qui seul pouvait remplir le vide dans le cœur des hommes. Et donc, Rome avait écrasé le peuple sous son règne cruel, et maintenant le peuple se débarrassait de Rome avec une cruauté semblable. Frères et sœurs, vous voyez, nous voulons prendre en compte ces choses parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les choses qui ont bouleversé la France au temps de la Révolution française réapparaîtront au dernier jour. Et il est même correct de dire qu'elles réapparaissent aujourd'hui. Il n'est plus lieu de regarder dans le futur pour l'accomplissement de cette déclaration de l'esprit de prophétie que nous avions lue la dernière fois. Et donc, à la lumière de cela, frères et sœurs, on veut maintenant considérer autre chose. Parce que je vous ai présenté cela, j'ai attiré votre attention sur cela pour tirer et placer en avant un contraste. Ce qui s'est passé dans les scènes de la Révolution française, c'est que ce n'était que le fruit d'action et d'activité passée. Et cette activité passée, c'était d'avoir rejeté la Bible. Mais plus encore, maintenant que ces choses avaient maintenant produit leurs fruits, le peuple avait perdu de vue l'esprit de renoncement et l'esprit de sacrifice et l'amour désintéressé qui faisait partie des enseignements de Jésus. Et c'est donc pour cela maintenant qu'on veut se tourner vers quelque chose d'autre, parce que à l'époque de la Révolution, les gens tournaient toute leur haine contre le roi et aussi contre le clergé, mais en partie contre le roi, contre ses abus, son indolence, et la réelle compréhension d'un roi à travers les siècles avait été complètement effacée. La réelle nature d'un roi à travers les millénaires, en réalité, n'a jamais vraiment été une compréhension juste. C'est-à-dire que les rois ont toujours, sauf peut-être quelques exceptions, été des personnes qui faisaient abus de leur pouvoir. Mais la parole de Dieu, elle nous présente quelque chose d'autre, comme nous l'avions vu dans notre lecture biblique, c'est que Dieu nous appelle à nous réjouir et il veut se saisir de nos affections en nous présentant une personne qui est roi, mais qui n'est pas roi comme les rois de la terre. Et vous voyez, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des illusions dans les cœurs des hommes, c'est que les hommes s'imaginent que si seulement ils pouvaient trouver le bon dirigeant, la bonne personne leur désir serait satisfait si seulement ils pouvaient trouver une personne sur la terre qui représentait de manière correcte et majoritairement leur propre pensée, cette personne introduirait sur la terre ce que eux, les hommes, le peuple, les citoyens, languissent après. Et donc il y a cette idée que si seulement nous pourrions trouver la bonne personne, et donc le cœur est sans cesse en train de regarder, d'espérer un tel personnage, d'espérer la venue d'un personnage qui pourrait satisfaire à toutes nos attentes intérieures. Et, mais le problème, c'est que cette personne ne vient jamais et que Satan s'efforce de toujours démoraliser et dégrader les hommes en leur faisant sans cesse espérer cette venue, tout en les avilissant en même temps et en les plongeant dans plus de vices, plus de péchés et une perte plus considérable du sens de la valeur de leur propre âme. Et donc, frères et sœurs, c'est ici le croisement qui a inspiré ce message que je veux vous partager aujourd'hui. C'est parce que l'ennemi, il sait très bien, parce que c'est lui qui présente les tentations et qui présente les mensonges, quelles sont les choses, les imaginations, les idéaux qui animent nos cœurs. Et donc, il est sans cesse en train de jouer sur ces points-là, pendant que, en même temps, comme il faisait au temps de la Révolution, il s'efforce d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres et de créer un fossé qui crée entre les riches et les pauvres un sentiment d'aliénation et qui crée du dédain pour les riches envers les pauvres, du mépris et qui fait brûler et enflamme les pauvres d'un sentiment de haine envers ceux d'en haut. Et c'est à travers ce genre d'activité que Satan s'efforce de créer le tumulte, les émeutes, les révoltes et la guerre. Et Rome a toujours son mot à dire dans ces choses, frères et sœurs. Parce que, d'ailleurs, si vous regardez bien à quoi ressemble la constitution française du droit de l'homme, et que vous regardez quels sont les symboles qui ont été utilisés, vous comprenez directement qu'il s'agit ici d'une création franc-maçonnique. Et si vous connaissez l'origine de la franc-maçonnerie, vous vous souviendrez que Adam Weishaupt, qui a fondé la franc-maçonnerie, était lui-même jésuite. Et donc toutes ces choses maintenant dont les hommes voudraient se vanter d'un progrès ne sont en réalité que une machination par laquelle Satan s'efforce d'enchaîner les âmes et de leur faire perdre de vue leur réel destin. Et donc la chose vers laquelle maintenant nous voulons pencher nos regards et notre attention, elle nous est déclarée dans Jérémie, chapitre 23, au verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, il prospérera et il exercera le droit et la justice sur la terre. En ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en assurance et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. » Et donc, nous avons ici une déclaration prophétique de quel serait le Messie d'Israël. Il viendrait pour régner en roi il prospérerait et il exercerait le droit et la justice sur la terre et on l'appellerait l'Éternel, notre justice. Et il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans ce verset, mais malheureusement, cette prophétie, comme de nombreux autres qui prédisaient la venue du Messie, le caractère du Messie, elle combinait à la fois son règne de grâce et son règne de gloire. Et pour cette raison, elle fut une pierre d'achoppement pour tout Israël du temps de Jésus-Christ. Parce qu'il s'attendait à ce qu'il règne en roi de manière puissante, de manière dominatrice, et qu'il prospère dans son royaume dominateur, et qu'il juge, qu'il exerce le droit et la justice en gérant les différends et en mettant les choses à plat, de manière concrète et physique. Et donc, les prêtres et la grande majorité du peuple s'attendaient à ce que ce soit dans, en ce sens-là qu'il devienne et qu'il soit appelé l'Éternel, notre justice. Mais comme nous connaissons l'histoire des disciples et ce qui s'est révélé dans la vie de Jésus, qu'il s'attendait à ce qu'il se prononce lui-même comme un roi temporel, ils ont été terriblement déçus. Et donc maintenant, on continue de lire le caractère de ce roi. Dans Ésaïe, chapitre 11, versets 1 à 5. Mais il sortira un rejeton du trône d'Isaïe, et un surgeon naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel tellement qu'il ne jugera pas d'après l'apparence et ne décidera pas sur un oui-dire. Mais il jugera avec justice les petits et décidera avec droiture pour les humbles du pays. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et fera mourir le méchant par le souffle de ses lèvres, la justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Et en parallèle avec ça, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 19, du verset 11 à 16, vous voyez que cette prophétie ici d'Ésaïe chapitre 11, elle combinait à la fois la venue de Jésus sur la terre et le retour, donc sa seconde venue, son second avènement à la terre. Et ces choses étaient mises l'une à côté de l'autre et donc elles avaient été mal comprises du temps de son premier avènement et Jésus n'avait pas été reconnu. Mais ce n'était pas faute d'avoir exprimé clairement de la part de Dieu la nature de ce roi. Parce qu'il était écrit, il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Et comment cela se révélerait de manière concrète vis-à-vis des personnes qu'il côtoierait? Il ne jugerait pas d'après l'apparence et ne déciderait pas sur un oui-dire. Donc il s'agit ici de quelqu'un qui a l'esprit de Dieu et qui est éduqué par Dieu, l'esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de science et de crainte de l'Éternel et qui ne juge pas selon les apparences et qui ne décide pas des torts simplement sur un oui-dire. Il s'agit ici de Dieu qui sonde les cœurs. Et c'était celui-là dont il était déclaré qu'il finirait par juger avec justice les petits et par frapper la terre de sa parole comme d'une verge. Jésus, quand il était parmi nous sur la terre, il a dit, quand il parlait aux pharisiens et aux scribes et aux prêtres qui remettaient toujours en question ses enseignements, il a dit, je ne juge personne, mais la parole que j'ai prononcée, c'est celle-là qui les jugera au dernier jour. Et ici, il est écrit que il frappera la terre de sa parole. Ça veut dire qu'il n'exercera pas lui-même un esprit vindicatif de jugement, mais que ce qu'il a dit, lorsqu'il s'exerçait à simplement enseigner la pure parole de Dieu, sans viser aucune personne de manière distincte, ce qu'il a dit là, à ces moments-là, ce seraient ces choses-là qui jugeraient les personnes à la fin. Et que lui-même ne s'exercerait pas de manière coléreuse. Mais qu'il exercerait, comme c'est écrit ici, la justice. Et la justice sera la ceinture de ses reins et la vérité la ceinture de ses flancs. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que nous devons ceindre notre esprit par la vérité. C'était ce qu'était Jésus. Son esprit, son discernement était régulé par la parole de vérité. De telle sorte que quand il était tenté, il disait, il est écrit ceci et cela. Et donc, il est différent des autres rois. Il a l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il ne juge pas d'après les apparences. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est de lire la nature du roi au sujet duquel Dieu nous dit de nous réjouir parce qu'il vient à nous. Il vient à nous dans sa grâce aujourd'hui. Et il est ce qui est écrit ici et ce qui est aussi écrit dans Ésaïe chapitre 42. Parce que ce qu'on veut faire, c'est réaliser que le vide qui est à l'intérieur de chaque homme et femme, c'est le vide que seul lui qui est roi des rois, qui est l'Éternel, notre justice, peut remplir et combler et satisfaire. Parce qu'il ne juge pas sur un oui-dire et selon les apparences, mais il lit les cœurs et il pourvoit aux besoins de nos cœurs. Je lis ici dans Ésaïe 42, versets 1 à 4. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. » J'ai mis sur lui mon esprit. Il manifestera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point sa voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé et n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. Il ne se ralentira ni ne se précipitera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et les îles espéreront en sa loi. Et pour éclairer ce passage, j'aimerais lire dans le commentaire biblique à la page 661 pour y voir comment l'esprit de prophétie élargit ce caractère du serviteur de Dieu, du roi qui manifestera la justice aux nations, qui ne criera pas et qui n'élèvera pas sa voix comme le faisaient les orateurs des païens, pour recevoir les applaudissements ou pour se faire remarquer. Qu'est-ce qui est écrit? Je lis ici. Christ, en commentaire sur ces paroles que nous venons de lire, Christ ne sera pas comme les maîtres de son temps. L'ostentation, l'exhibition et l'étalage de piété que révèlent les prêtres et les pharisiens n'ont rien à voir avec ces manières. Christ voyait l'œuvre des prêtres et des chefs. Ceux qui avaient surtout besoin d'aide, les affligés et les angoissés, étaient traités par des paroles de censure et de reproche. Mais lui, Jésus, s'abstint de prononcer une seule parole qui briserait le roseau fragile. Il encourageait le faible lumignon de foi et d'espérance et il ne l'éteignait pas. Il paissait son troupeau comme un berger, il prenait les agneaux entre ses bras et les portait dans son sein. Donc Jésus, il n'était pas comme les maîtres de son temps. Il ne faisait pas étalage de sa piété ou une ostentation, une exhibition de ses dons. Ça, ce n'était pas ses manières. Il n'était pas comme ça parce que il avait l'Esprit de Dieu. Dieu, le Père disait, j'ai mis sur lui mon esprit. Mais il n'avait pas simplement l'Esprit de Dieu de manière arbitraire, mais il nourrissait l'Esprit de Dieu. Nourrissait, c'est-à-dire qu'il le chérissait, il le cherchait. Et il le préservait en son cœur de telle sorte qu'il peut être dit de lui que il ne criait point, il n'élevait point sa voix, il ne se faisait point entendre dans les rues. Et c'est très particulier parce qu'aujourd'hui, nous pensons que pour représenter Dieu, il nous faut nous faire entendre. C'est-à-dire, il nous faut nous faire remarquer pour être quelque peu attrayant aux yeux des hommes. Mais que faisait Jésus? Quelles étaient ses manières? Les affligés, les angoissés qui étaient traités par des paroles de censure et de reproche, est-ce qu'ils rajoutaient des paroles de censure et de reproche pour les plonger davantage dans le désespoir? Parce que vous voyez, les serviteurs de Satan, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils condamnaient ceux qui avaient un cœur sensible et ils utilisaient leur sensibilité et leur consciencieuse sensibilité pour les condamner davantage. Mais Jésus, lui, il s'abstenait de prononcer une seule parole qui briserait le roseau qui était déjà fragile. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans un champ où il y a peut-être des hautes herbes. Et ces hautes herbes, celles qui ont monté en graines, elles sont plus dures et vous pouvez parfois être tenté de les casser, simplement pour vous amuser. Ou elles sont cassées et vous avez envie de les casser encore plus, simplement pour finir le travail. Et vous voyez, cet esprit n'était pas en Jésus-Christ. Son esprit, c'était d'encourager le faible lumignon de foi et d'espérance. C'est-à-dire que s'il voyait un cœur en qui il y avait une faible, terriblement faible lueur de foi et d'espérance qui était sur le point d'être éteinte, qui était vraiment sur le précipice de l'extinction totale, il voulait absolument encourager cette flamme. Quelle que soit les œuvres, les actions et les fautes de cette personne. Il voulait entourer cette flamme de ses mains pour éviter qu'aucun vent vienne l'éteindre à jamais, et il voulait encourager cette flamme. Il voulait nourrir le faible lumignon de foi et d'espérance. Vous voyez, ça vaut le coup. Il faut que l'on prenne ces choses à cœur et personnellement, parce que Jésus est le sauveur personnel de vous et de moi, de chacun d'entre nous. Et il est cela sans exception de personne. Ce qu'il était pour ces personnes oppressées et affligées, il est cela pour moi. Il éteignait pas cette flamme. Il paissait son troupeau comme un véritable berger et il prenait les agneaux faibles en foi et en confiance entre ses bras, figurativement parlant, et les portait dans son sein. C'est-à-dire qu'il se chargeait des âmes comme quelqu'un qui doit rendre compte, mais pas simplement cela, mais comme celui qui était venu en sauveur. Il avait une responsabilité et il manifestait combien il était consacré à l'accomplissement total et complet, sans réserve, de cette responsabilité pour le salut de nos âmes. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde sur un discours ou le discours du roi. Parce qu'il y a un moment où Jésus a exprimé son office de roi de manière vraiment illuminatrice. Il a vraiment illuminé la nature de sa qualité de roi, de sa fonction de roi. Et il a jeté de la lumière sur nos attentes et ce que nous pouvons trouver en lui et ce qu'il attend lui-même de ses sujets. C'était dans son entretien avec Pilate. Dans Jean chapitre 18, verset 33, à 37. Je lis. Alors Pilate rentra dans le prétoire et ayant fait venir Jésus, il lui dit : Es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : Dis-tu cela de ton propre mouvement ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? Pilate lui répondit : Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Jésus répondit : Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit : Tu es donc roi ? Jésus répondit : Tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et ensuite, Pilate a dit quelque chose de terriblement triste parce qu'il n'a pas attendu la réponse. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Et quand il lui dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et leur dit : Je ne trouve aucun crime en lui. Donc vous voyez, frères et sœurs, il s'agit ici de quelque chose de sérieux parce que Jésus est roi de la vérité. Et il appelle à ceux qui se disent être de la vérité à écouter sa voix et à obéir à cette voix. Donc il ne s'agit pas simplement ici d'un roi sur le plan uniquement émotionnel et affectif, mais il s'agit ici du fait que il est le roi et il est venu rendre témoignage à la vérité. C'est-à-dire que ses enseignements sont à prendre tels quels et à embrasser, et il se révèle ainsi à nous comme le roi qui était écrit dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Il y avait écrit ici « Réjouis-toi, fille de Sion, en transport de joie. Voici ton roi vient, il est humble et ayant le salut et il vient sur un âne. » Il est humble et il apporte le salut, il a le salut et il vient sauver. Et dans cette activité de salut, Jésus a dit « Mon royaume, il n'est pas de ce monde. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, Pilate lui dit « Mais tu es roi, alors comment ça, tu te laisses tuer quoi ?» Et Jésus lui dit « C'est pas ça l'objet de ma venue ici. » Et Pilate, son cœur était saisi de conviction alors qu'il entendait et qu'il percevait en Jésus la nature divine qui se révélait à travers ses traits. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons prendre à cœur ces choses. Parce que être sujet du roi de gloire, du roi des rois, seigneur des seigneurs, ce n'est pas simplement professer son appartenance au royaume de Christ. Il s'agit d'écouter la voix de Jésus dans laquelle il rend témoignage à la vérité. Et donc, étant saisi de ces choses, on veut conclure notre méditation avec quelque chose que l'on puisse garder, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu. Jésus, il disait, quiconque est de la vérité entend ma voix. Vous savez, Pilate était romain, un gouverneur romain. Et les Romains, ils se réjouissaient souvent de leur recherche de la vérité, de tous leurs philosophes et de toutes leurs activités énergiques dans la recherche de la vérité. Et Jésus, connaissant très bien la culture grecque et romaine, parce que les Romains aussi avaient hérité et remixé ces questionnements grecs, il savait pertinemment cette culture, il la connaissait, et donc il a fait appel à travers l'Esprit de Dieu à Pilate en lui disant « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix !» Autrement dit, il parlait au cœur de Pilate et lui disait « Si vraiment tu cherches quelle est la vérité, elle est devant toi en personne. Réveille-toi. » Simplement, Jésus n'aurait jamais parlé en ces termes parce que la révélation du caractère de Dieu se faisait dans une humilité. Il est venu, ton roi vient humble et ayant le salut. C'est ce que nous lisons dans la Bible d'Arbi, ayant le salut. Il vient pas simplement vainqueur, il vient avec le salut. Et donc, Jésus, il disait à Pilate, tu veux un peu discuter, mais la réelle question, c'est la vérité est en train de te parler et de se révéler à toi. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Et en parallèle avec cela, frères et sœurs, nous voulons prendre en compte que lorsque Jésus est venu sur cette terre, et d'ailleurs c'était complètement révélé dans le jugement auprès du Sanhédrin, auprès de Hérode et auprès de Pilate. Jésus n'était pas quelqu'un à se justifier. Et donc, à cause de cette attitude, de cette profonde débonnaireté, de cette humilité, de cette profonde modestie, Pilate a dû en revenir à plusieurs fois pour obtenir de la bouche de Jésus les réponses qu'il n'était pas réellement prêt à ouvrir son cœur à ces réponses. Et Jésus percevait ce cri faible de l'âme qui est en train de faire ses derniers pas vers l'endurcissement et il cherchait à toucher son cœur. Frères et sœurs, où sommes-nous aujourd'hui? N'est-ce pas que nous vivons au seuil même de la fin du temps de grâce? Et n'est-ce pas aujourd'hui le temps pour écouter le roi de la vérité? Il n'est pas simplement roi de gloire. Il n'est pas simplement roi de mes émotions, il est roi de la vérité. Et il me demande, si tu es de la vérité, est-ce que tu écoutes vraiment ma voix? Et si tu écoutes ma voix, quelle sera ta réponse? Et dans Ésaïe 53, nous lisons au chapitre 53, versets 1 à 3. Qui a cru à notre message? Et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, hommes de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Donc voyez les pharisiens, ils ne faisaient aucun cas, ils n'ont fait aucun cas de Jésus. Et Pilate aussi était dans ce danger, et nous sommes aussi dans ce danger. Nous sommes dans ce danger de ne pas croire au message. Ne pas croire de manière vivante et sincère et fervente au message. Et de ne pas saisir la révélation du bras de l'Éternel. Je lis ici dans le commentaire biblique à la page 667. Ces paroles que nous venons de lire ne signifient pas que la personne de Christ était repoussante. Aux yeux des Juifs, Christ n'avait aucune apparence qui leur fasse le désirer. Ils attendaient un Messie qui viendrait avec une ostentation externe et une gloire mondaine. Un Messie qui accomplirait de grandes choses pour la nation juive et l'exalterait au-dessus de toutes les autres nations de la terre. Mais Christ vint en cachant sa divinité sous le vêtement de l'humanité, discret, humble et pauvre. Il comparait cet homme aux démonstrations vaniteuses qui étaient les leurs, et il ne pouvait voir en lui aucun charme. Il ne discernait pas la sainteté et la pureté de son caractère. La grâce et la vertu révélées dans sa vie n'avaient pour eux aucun attrait. Donc la question que l'on veut se poser, c'est: est-ce possible que la grâce et la vertu qui étaient révélées dans la vie de Jésus-Christ n'aient pour moi aucun attrait, comme c'était le cas pour les Juifs. Et vous vous souviendrez que finalement, quand Pilate s'est présenté aux Juifs et qu'il essayait à tout prix de leur faire renoncer à leur entreprise de vouloir crucifier Jésus, il leur a dit, crucifierai-je votre roi? Et ils ont répondu, nous n'avons point d'autre roi que César. Vous voyez, le parallèle dans l'expérience de ces Juifs, c'est le moment fatidique où la loi du dimanche se présente et l'oppression du monde vient se presser contre le peuple de Dieu. Et quand ils disent « Crucifierai-je votre roi ?», ils répondent « Nous n'avons point d'autre roi que César. » Et ils se montrent infidèles. Donc vous voyez, frères et sœurs, nous sommes donc appelés, dans l'appel de Dieu à sa gloire, à réaliser que Jésus-Christ est le roi de la vérité, que la vérité est la pierre de touche de son royaume et que son royaume n'est pas de ce monde. Et donc dans l'appel à sa gloire, c'est impératif pour nous de ressentir notre danger de ne pas discerner le bras de l'Éternel. Parce que notre nature humaine recherche l'ostentation et la gloire extérieure pour justifier une allégeance totale. Mais le fait est que Jésus, il n'avait aucun attrait aux yeux des hommes de son temps. Et est-ce que ça serait différent pour nous aujourd'hui? Donc prendre Jésus pour roi, c'est beaucoup plus qu'une simple profession. Il s'agit de lui laisser occuper la première place de notre cœur, de le faire asseoir sur le trône, dans la citadelle de notre âme. Et il s'agit de ne pas dire en notre cœur, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Donc puissions-nous prendre à cœur cet appel que Dieu voulait se révéler à travers son bras qui n'était autre que Jésus-Christ, mais son bras n'a pas été reconnu. Et se peut-il qu'en ces derniers jours, Dieu veut se révéler par des instruments humains, mais nous méprisons le statut pauvre qui est le leur et que, à cause de cela, nous ne discernons pas et que le bras de l'Éternel ne nous soit pas révélé à cause de notre attitude? Puissions-nous considérer ce que Jésus a dit? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen.